Eh ben bonsoir, bienvenue dans le nouveau podcast de la librairie de la bande dessinée Acroix-Rousse, toujours au 50 Grande Rue de la Croix-Rousse. Le site internet c'est toujours labd.net et les podcasts sur toutes les plateformes, principalement sur Ocha. De toute façon, si vous êtes sur le lien, c'est que vous avez réussi à trouver le podcast. Ce soir, chacun d'entre nous va présenter un album d'un auteur ou d'une autrice qui a déjà fait d'autres œuvres, mais dont celle qu'on va vous présenter est peut-être passée un peu sous le radar pour une raison ou pour une autre, mais qui pour nous a quand même un intérêt certain. Donc on va tout de suite commencer par Simon, qui va nous présenter un premier album.
Bonjour à tous, hyper content d'être là avec Nico et toute l'équipe pour enregistrer de nouveaux podcasts. Alors bon, moi je commence par tricher un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il fallait présenter un album. Moi, celui que je voudrais vous présenter, il n'est pas proprement sorti. Il aurait pu, il aurait dû, et ça s'est pas fait malheureusement, mais enfin bon. C'est un album qui regroupe un certain nombre d'histoires, des histoires qui sont assez méconnues, et qui auraient pu, pour tout dire, changer la BD, le monde de la BD tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors pour tout vous dire, je vais lâcher le truc, hein, c'était une forme de reboot d'Astérix à la fin des années 70. Le contexte, Astérix, ça sortait dans le journal Pilote depuis 59, ça a duré jusqu'en 73. Dès 1960, c'est-à-dire au tout début de la publication de Pilote, le journal a été racheté par Dargo, qui a racheté non seulement le journal, mais également toutes les séries qui étaient publiées. Et pour info, il l'a racheté un franc, le franc symbolique. En 74, le journal de Pilote devient mensuel et il s'adresse à ce moment-là à un public un peu plus âgé. En 86, il fusionne carrément avec Charlie, puis il redevient Pilote en 88 et il s'arrête. C'est en 1977 qu'il y a eu une sorte de contentieux entre Georges Dargo, le directeur des éditions Dargo à l'époque, et Goscinny et Uderzo, à tel point que la série Astérix est alors suspendue pendant quelques temps, pendant la publication d'Astérix chez les Belges. Le 5 novembre 77, catastrophe, Goscinny meurt, comme vous le savez peut-être, lors d'un test d'effort à la clinique. Pour Dargo, lui, il pense que la mort de Goscinny, c'est fatal à Astérix. Il n'envisage pas vraiment que Uderzo reprenne la série seule. Et puis, en même temps, il n'a pas trop envie de perdre sa série phare. Donc, puisqu'il a racheté les séries pilotes, techniquement, il peut prétendre au droit de la série. Donc, dans cette lignée un peu plus adulte de pilote de l'époque, parce qu'on est quand même après 68, ils veulent s'adresser à un public un peu plus ado, il imagine un Astérix un peu plus sombre, plus réaliste aussi. Et il pense confier la série Astérix à un scénariste et romancier qui, à l'époque, a 38 ans, qui est encore inconnu du grand public, qui a publié un roman qui est passé, on va dire, relativement inaperçu, hein, et qui a été publié au Mercure de France, mais qui, en 77, commence tout de même une série dans le journal de Tintin. Ce scénariste, c'est Jean Van Am. Le roman, c'est le premier roman Largo Winch, qui va ensuite donner lieu à la série de BD qu'on connaît bien, donc Largo Winch et le groupe W. Et la série qui commençait à apparaître dans le journal de Tintin en 77, c'était Torgal. Dargo a très envie, pour tout vous dire, de piquer ce jeune auteur talentueux, enfin jeune, il avait quand même presque 40 ans, hein, au Lombard. Pour info, enfin pour rappel, il y a eu pas mal d'histoires célèbres comme ça, quand Tintin a piqué Franquin à Dupuis, enfin bon, ça, on va dire ça se faisait. Et c'est posé le problème du dessinateur au début. Dargo pense tout d'abord à Jean Giraud, carrément. Mais deux problèmes. D'abord, en 68, il y avait une sorte de fronde des dessinateurs pilotes contre le rédacteur en chef de l'époque, entre autres Goscinny. Et pour Giraud, ça reste un point un petit peu sombre. Il a pas mal de remords. Donc vis-à-vis de Goscinny, lui, il se sent pas trop chaud. Et puis en 77, Giraud, c'est déjà Mébius, hein. Il a sorti en 74 Le Brandard Fou. Il avait même participé à la fondation des humanoïdes associés, hein, dans le but de publier le journal Métal Hurlant. Et là, idée de génie, du coup, après l'abandon, on va dire, de Giraud, il se dit, puisqu'on veut s'adresser à un public adolescent, on va chercher un tout jeune dessinateur. Et donc là, ils pensent à un truc un peu fou. Ils font carrément tour des écoles d'art, à Bruxelles en particulier. Et ils vont jeter leur dévolu sur un dessinateur de 17 ans seulement, hyper prometteur, qui est élève à l'école Saint-Luc de Bruxelles, sur la recommandation de deux de ses profs, et pardonnez du peu, François Skuyten et Philippe Berthet. Ce tout jeune dessinateur, c'est Philippe Franc. Vous l'avez compris, c'est assez dingue, c'est déjà les auteurs de la série Largo Winch. Pour refaire un petit peu un topo sur l'histoire, sur le scénario, au début, ils avaient pensé partir justement sur un récit plus réaliste, et puis ils ont opté pour le polar noir, carrément. Donc, désolé pour ceux que ça va attrister, mais en fait, au début de l'histoire, Obélix est mort. On ne sait pas trop pourquoi, mais d'après Van Am, la présence d'Obélix, en fait, ça biaisait toujours les histoires, puisque à partir du moment où il y avait Obélix, bon voilà, les Gaulois ne pouvaient pas perdre de toute façon. Et donc, Astérix renonce à la potion et décide d'utiliser son atout principal, la ruse. Et il ouvre, on peut appeler ça une agence de détective, tout bêtement, une agence de détective gauloise, quoi, qui s'appelle, et c'est aussi le titre pressenti pour l'album, l'agence Détectix. faut imaginer qu'il y avait donc un dessin qui était quand même plus noir, plus réaliste, beaucoup de texte dans les cartouches, un peu comme une voix off. C'est pas encore le dessin réaliste que Philippe Franck va adopter sur l'Argo Winch, mais on est sur une forme de compromis entre Uderzo et Philippe Franck tel qu'on connaît maintenant, une sorte de dessin semi-réaliste. Et il commence avec Van Hamme à travailler sur une série avec pour objectif de sortir la première histoire courte, parce que ce sera des histoires courtes, dans le numéro hors série de pilote du 1er octobre 1978. Qui était un numéro spécial policier. Pour la petite histoire, c'est Casa qui a fait la couve, une couve assez classe. Et la première histoire était de 8 pages. Et là, encore une fois, désolé pour ceux que ça va chagriner, mais Falbala venait en fait voir Astérix pour l'aider à prouver que Tragic Comics la trompe.
Quelle indignité. Voilà.
Donc l'histoire va se passer à Condat, je vous le rappelle, la ville où habitent Falbala et Tragic Comics, mais Condat qui n'a rien à envier à New York, avec une imagerie un peu sordide, pas mal de violence, de la drogue, et pour tout vous dire, même un peu de sexe. Voilà, donc il y avait toutes ces idées au départ pour faire plusieurs histoires courtes avec l'idée d'en faire un album. Mais deux problèmes alors que la première histoire est complètement bouclée. Le 26 septembre 1978 paraît un numéro de pilote hyper spécial. Je sais pas si certains d'entre vous la voient, mais elle avait une couverture blanche titrée « Pilote n'est plus un journal ». Parce que mi-septembre, donc 15 jours avant la sortie du numéro de pilote et à peine un mois avant la sortie du numéro spécial policier, Pilote a été radié de la commission paritaire des publications et des agences de presse. Et ça, sans aucun avertissement. Alors, sans entrer dans les détails, ça veut dire qu'il risquait de perdre beaucoup d'argent, parce que ça signifiait une grosse, grosse augmentation des coûts de production. Et Pilote risque de ne plus sortir. Donc, pour Dargo, c'est pas vraiment le moment de prendre un risque majeur. Et en plus, on n'en a pas beaucoup parlé et c'est un peu comme si on l'avait oublié, mais c'est pas le cas. Uderzo, de son côté, lui, avait pas perdu son temps. Avec Gilbert Goscinny, ils avaient préparé une nouvelle maison d'édition qui leur permettrait de se séparer de Dargo, les éditions Albert René, les prénoms des deux auteurs. Et puis, en 77, faut pas oublier qu'il est toujours sur Asterix chez les Belges, qui finit seul, certes, après la mort de Goscinny, mais qui sortira finalement qu'en 79 à terme. Et puisque le contrat qu'il a passé avec Dargo depuis des années stipule que s'il a un album en cours, il continue la série, il annonce avoir commencé un album tout seul. Au scénario et au dessin, bien sûr. Il s'agit du Grand Fossé, vous le savez, que certains voient le Grand Fossé comme une critique du mur de Berlin, d'autres comme une sorte de parodie de la Belgique, mais qui exprime, à mon avis, peut-être aussi le fossé qui s'est construit entre lui et celui qui était son ami de longue date, Georges Dargo. Il y aurait pu avoir bataille juridique pour les droits, mais Dargo, très beau joueur, et on va dire peut-être impressionné par la volonté d'Uderzo, va carrément jeter l'éponge et lâcher cette histoire. Donc, il n'existe de cette agence Detectix qu'un seul chapitre. Voilà, que je vous encourage à aller chercher. Vous le trouvez assez facilement si vous rentrez ces mots-clés sur Internet. Et donc Uderzo va reprendre la série et Van Hamme et Franck se promettent de rebosser un jour ensemble. Ce qu'ils font, évidemment. Presque 20 ans plus tard avec l'Argo Winch. Et puis finalement, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison parce qu'ils en ont vendu quand même des millions d'exemplaires. Voilà, mais je pense que ça aurait été un album qui aurait pu vraiment changer la face de la BD. Alors, on aurait raté quelques Astérix qui sont quand même pas mal, hein, on va dire comme le Grand Fossé, le Fils d'Astérix, même Astérix chez Razad. Ça nous aurait peut-être épargné. Mais Astérix et la Traviata ou le ciel lui tombe sur la tête. Mais enfin, vraiment, je vous encourage à aller chercher, c'est assez fou.
Je t'avoue que j'imagine bien la pluie tombe sur Candate. Ouais, Astérix, enquête.
C'est vraiment cette ambiance, ouais. C'est très très surprenant, mais...
Ouais, mon voisin.
Non, mais ça vous fait marrer. Ça vous fait marrer, n'empêche que ça correspondait vraiment à ce que Pilote cherchait à faire à l'époque, à savoir lâcher la BD pour enfants et faire de la BD ado. Voilà.
Et bah du coup, merci beaucoup Simon. Très très belle présentation. Et pour revenir juste brièvement sur, en effet, ce que tu disais, on aurait pu voir un Astérix par Giraud. Giraud était, au-delà de cette embrouille, quand même aussi très occupé à cette époque-là. En fait, c'est à cette époque-là où il a commencé aussi à se tourner vraiment vers le cinéma. En 77, notamment, il avait bossé en directeur artistique sur le Alien. Et juste avant, il avait commencé à bosser sur le projet un peu maudit de Jodorowsky, le Dune.
Bah tu vois, pour moi, cette agence Detectix, c'est à la BD ce que le Dune de Jodorowsky est au cinéma. Ouais. Ah bah moi, c'est mon grand regret. Ouais.
Il existe d'ailleurs des rares exemplaires qui sont vendus très très cher du script qu'il avait écrit à l'époque,
ouais,
script originaux.
Entièrement dessiné et avec des dessins justement de tout un tas
de ça.
Et bah du coup, pour le deuxième album, c'est moi qui viens m'y coller. Alors, sans le savoir, ça parle aussi d'un album qui a jamais vu le jour.
Oh la triche.
Qui a été en fait pré-publié aussi dans une revue de bande dessinée, c'était la revue À Suivre, à l'époque. Il y a trois auteurs qui ont bossé dessus. Socal au scénario, donc Socal connu pour énormément de choses, mais principalement Canardo. Et avec au dessin, Yvan Pommeau, très connu pour Angelo Bulac ou Marion Duval.
Tellement bien.
Et voir Lido, qui a fait un certain Black Sad, par exemple. Mais avant tout ça, je vais revenir brièvement sur l'histoire de la revue à suivre et qu'est-ce qu'il en est. La revue à suivre, c'est une revue de bande dessinée qui a commencé en 78 et qui s'est terminée dans les années 90, en 97, qui a eu un pic de popularité au milieu des années 80, chapeauté par les éditions Casterman. C'est un magazine qui a été créé par Louis Gérard et Didier Plateau, en fait, qui reviennent du Salon International de la Bande Dessinée, qu'on appelle maintenant le Festival d'Angoulême, qui avait rencontré sur le festival Jacques Tardy, et qui décident de lancer une revue de bande dessinée parce qu'ils ont été très impressionnés sur ce qui a été fait avec Hugo Pratt quand il a lancé la Balade de la Mer Salée. Le magazine va se développer. Dans les années 80, c'est vraiment un magazine qui va connaître un essor et au-delà de ça, en fait, une reconnaissance assez importante au niveau du lectorat. On a créé peut-être un monstre aussi à l'époque parce qu'on appelait ces récits de bande dessinée du roman bande dessinée. Est-ce que c'est ce qui a donné le monstre roman graphique des années plus tard, je sais pas, parce que la graine était plantée, la graine du mal était plantée.
C'est trop tard.
Mais du coup, parce que c'était vraiment des récits qui étaient différents, qui étaient des récits plus adultes, qui se permettaient de raconter des choses peut-être un peu plus profondes aussi, pas tout le temps, mais voilà, et c'est ça qui a marqué beaucoup le lectorat. Et au numéro 90, il y a un certain Sokal, Sokal, le créateur de Canardo, entre autres, décide de faire revenir son personnage du canard détective avec le très grand French coat à la Colombo, de le faire revenir dans un univers un peu différent. Alors, les aventures de Canardo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un univers avec des personnages anthropomorphes, mais pas que, il y a des humains aussi, même s'il y a quand même beaucoup d'animaux, et c'est souvent des enquêtes assez poisseuses, un univers assez sombre, avec un personnage alcoolique, et c'est aussi un personnage qui est conscient d'être un personnage de bande dessinée, qui brise parfois le quatrième mur. Et là, il voulait changer un petit peu d'ambiance, quand même faire un récit adulte, mais aller vers quelque chose de plus poétique, alors aussi changer de l'environnement urbain qui était représenté dans les albums de Canardo. Et pour faire tout ça, il décide de scénariser l'album, mais de choisir aussi un nouveau dessinateur. Et le nouveau dessinateur qu'il choisit pour faire ça, c'est aussi un auteur qui a déjà travaillé sur des récits anthropomorphes, mais dans des choses beaucoup plus jeunesse, parce qu'à l'époque, il avait beaucoup publié dans l'École des loisirs. C'est Yvan Pommeau, qu'on connaît peut-être plus pour les aventures, par exemple, de Marion Duval, de Angelo Dulac, qui n'avait pas encore sorti à l'époque. Et du coup, pour accompagner Yvan Pommeau, il va aussi avoir un tout jeune dessinateur, Guarnido. Guarnido, qui est très connu pour dernièrement Les Indes Fourbes, mais avant sa série à succès, Black Sad, dont le premier était sorti dans les années 2000. Et donc là, on est en 1985. Il est tout juste diplômé des Beaux-Arts de Grenade. Il a 18 ans. Lui, il fait beaucoup de fanzina, il fait beaucoup de petits fanzines avec ses illustrations, qu'il auto-édite. Nous, avec le festival de la bande dessinée en 85, il y a toujours à suivre qu'il y a une sorte de petit stand avec Casterman là-bas, et lui décide d'aller avec tous ses dessins et de monter en fait à Angoulême, et il y va et pour présenter un peu ses dessins. Et c'est là où il rencontre Benoît Sokal, il tape dans l'œil de l'auteur. Puis Benoît Sokal lui dit on va le mettre un pied à l'étrier et on va le donner en assistant à Yvan Pommeau pour qu'il l'aide à voir ce que c'est vraiment faire un récit de bande dessinée. Sauf que Yvan Pommeau, lui qui a l'habitude de travailler tout seul ou alors avec sa femme qui est aussi scénariste, et lui dit non, ce qu'on va faire c'est que je vais pas dessiner l'album tout seul, mais en fait on va dessiner à deux. Ça va être un album qu'on va dessiner à deux. Et au départ, l'aventure du Canardo, ça devait être une aventure de Canardo qui se retrouve sur une île, donnera après la mer zone dans l'album numéro 5. Son détective canard devait être accompagné d'un détective chat. Et simplement, au lieu d'avoir un seul chat, y aura deux chats détectives. Il y aura le chat détective qui s'appelle simplement John, qui donnera après le John Black Sad. Et l'autre s'appelait déjà Chatterton. Et Chatterton, c'est une série qui a développé après tout seul Yvan Pommeau.
C'est John aussi. Chatterton aussi d'ailleurs.
John Chatterton,
il me semble, ouais.
Peut-être, ouais. Peut-être qu'ils ont gardé les deux. Les deux. C'est une aventure qui est très très courte. En fait, il y a eu trois numéros, donc du numéro 90 au numéro 92. Et c'était à chaque fois 10 pages de bande dessinée où on suivait les aventures de Canardo et des deux John, qui étaient trois détectives qui étaient envoyés en fait sur une île de la mer zone pour partir à la recherche d'un explorateur qui s'était perdu sur l'île. Le problème, c'est que les trois sont envoyés sur l'île pour trouver la même personne, et très vite, ils vont se perdre dans l'île, et ça va être une aventure de survie, assez désespérée d'ailleurs, qui finit très mal pour les trois. Pas comment ça finit, mais ça finit très mal. Il y a quand même des envolées beaucoup plus poétiques et beaucoup plus fantastiques, mais je pense que c'est peut-être aussi ce qui n'a pas tellement plu à Yvan Pommeau, pour ça qu'il a fait l'expérience et qu'il est parti, c'est des récits quand même très très sombre comparé à ce qu'il a l'habitude de faire avant et même après. J'ai pas réussi à trouver pourquoi est-ce que l'album a pas continué au-delà de ça. Alors, il y a une vraie fin, hein, ça tombe pas sur un cliffhanger au-delà du numéro 3. Mais les trois artistes n'ont jamais rebossé ensemble. 5 ans après, Guarnido va rencontrer Canales. Les deux ensemble vont mettre en place Black Sad, la BD qu'on connaît. Elle verra le jour en 99. Entre-temps, entre 90 et 99, il ira bosser à Disney de Montreuil. Guarnido, il va pas mal prendre en bouteille. John Chatterton, lui, va sortir en 93. Par contre, c'est un univers qui est... C'est des choses beaucoup plus fabuleuses. Notamment, il reprend certains contes, il reprend le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant aussi, mais avec les enquêtes de son chat détective. Et Tocal, alors lui, il ne va pas chômer du tout, puisque un an plus tard, en 1986, en fait, ce projet-là, il recrée un album de Canardo, qui est l'album Amerzone. Et l'Amerzone, c'est quand même une grosse partie de son travail après, qui sera aussi développé en jeu vidéo, et pas que en bande dessinée.
Ouais, ça aurait été dommage que ça se fasse pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment pour moi le plus beau des Canardo. Et le jeu, la mer zone et tout l'imaginaire qu'il a développé autour, il y a eu des artbooks aussi, etc. Ça vaut vraiment le détour. Et t'avais relevé le jeu de mots, Canardo, en fait il est basé sur le personnage de Colombo.
Ouais.
Sauf qu'au lieu de prendre l'oiseau le plus classe et le plus beau, la colombe, il a pris l'oiseau le plus trivial et le plus... Voilà, la feuille s'appelait pigeon d'eau. Non, ça c'est pas.
Ça aurait été moins classe.
Poule d'eau.
Du coup, on va passer au troisième libraire ce soir, qui va aussi nous parler un petit peu d'animaux, j'en dis pas plus. Ça va être à toi, Camille.
Tout à fait, Nico, merci de la transition. Je vais parler d'animaux, mais pas autant que mes deux camarades, et je parlerai surtout un peu moins d'histoire de la bande dessinée. Désolé. On va même pas tant parler de bande dessinée que ça, on va peut-être parler un peu plus de romans. Parce que, ouais. Et surtout, on va parler d'un truc un peu plus récent. Désolé, les momies de la bande dessinée. Moi, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est sortie en 2019. Donc, c'est vraiment tout récent. Et même si ça adapte un roman qui est sorti il y a déjà quelques temps, puisque le roman est sorti en 1995, c'est la suite de l'adaptation en bande dessinée d'un roman qui est très connu, en tout cas aux États-Unis, peut-être un petit peu moins en France, même si ça a rencontré un très gros succès pendant très longtemps. C'est le roman qui s'appelle L'Assassin Royal, donc écrit par Megan Lindholm de son vrai nom, qui est une autrice de fantasy américaine, plutôt très connue sous le nom de Robin Hobb, qui est son pseudo. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet album-là? Parce que c'est un roman que j'ai lu pendant des années, qui me tient beaucoup à cœur, c'est un roman que j'aime beaucoup, et qui avait déjà eu en fait une première adaptation en bande dessinée chez Soleil, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'était en 2008. Adaptation qui, je suis désolé si les auteurs m'écoutent au podcast, même si c'est assez peu probable, je n'avais pas beaucoup aimé. Un peu convaincu que généralement les adaptations en bande dessinée des œuvres de fantasy, c'est un peu toujours pas ouf. Et ça se vérifie quand même dans pas mal de cas.
Genre gagner la guerre.
C'est un roman qu'elle a écrit en 1995 qui a propulsé du coup Megan Lindholm probablement au rang de plus grande autrice de fantasy de l'histoire, je pense. Désolé aux fans d'Harry Potter, mais malheureusement, voilà. Robin Hobb, c'est quand même 4 millions d'exemplaires vendus. C'est une autrice qui s'est très fortement inspirée de Tolkien, du coup, elle le dit dans beaucoup d'interviews. Et c'est surtout une autrice qui vend plus que d'autres auteurs qui sont quand même très connus comme George Martin, etc. Mais c'est quelqu'un qui est resté vachement dans l'ombre parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation de série, que ce soit animée ou film ou série même télévisée, parce qu'elle a toujours eu un côté un peu craintive de ce genre d'adaptation qui souvent sont mauvaises. Voilà. Donc elle est toujours restée un peu cachée, même si voilà, il y a eu une adaptation en bande dessinée. Mon histoire commence, parce que je vais vous expliquer quand même l'historique un petit peu de création de l'album avant de vous parler du contenu, commence en 2018, quand Robin Hobb se rend au festival Les Imaginales, qui a lieu dans le nord de la France à Épinal. C'est un festival où elle s'est déjà rendue pas mal de fois, parce que c'est sa 6e participation, et elle y va pour présenter le dernier album de sa série, qui met fin justement à tout cette espèce de cycle de l'Assassin Royal qu'elle a développé pendant plus de 20 ans. Elle y vient pour dédicacer, pour faire des rencontres, un colloque notamment, où elle parlera avec d'autres auteurs, avec plein de gens qui parlent un petit peu de la fantasy en France. Et elle rencontre sur ce salon un bonhomme que vous connaissez probablement, si vous lisez peut-être un petit peu de bande dessinée, ou que vous connaissez peut-être pas, ce qui n'est pas grave non plus, qui s'appelle Jérôme Le Reculé, qui est un dessinateur de bande dessinée, qui dessinera une bande dessinée qui sort actuellement, qui s'appelle Les Cinq Terres, qui est une série qui n'est pas si vieille que ça, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, a 4 ans, sorti en 2019 à peu près, il avait déjà dessiné une bande dessinée qui s'appelle Wolodrin, qui était déjà de la fantasy, qui était fortement inspirée de l'univers de Tolkien. Et il tombe sur Robin Hobb, et quelle aubaine pour lui, qui est très grand fan justement de cette autrice. Il discute avec elle, il lui dit qu'il a toujours trouvé ça dommage qu'il n'ait pas fait une suite à l'adaptation qui était sortie chez Soleil en 2008. Puisque la série en BD s'arrêtait à peu près à peine à un tiers de l'histoire de la série des romans. La discussion s'entame puisque, évidemment, lui, il dessine chez Delcourt. Delcourt qui appartient au groupe Delsol. Soleil qui avait déjà fait, évidemment, comme j'ai dit juste avant, les premières adaptations. Le problème, c'est qu'il travaille déjà sur une autre bande dessinée qui s'appelle Les Cinq Terres, sur lequel il a déjà commencé à plancher avec tout un tas de scénaristes, puisqu'il a écrit cette bande dessinée avec un groupe de scénaristes qui s'appelle Lowellin, qui sont en fait un regroupement de trois scénaristes. Je crois qu'il y a Andoris, David Chauvel et Patrick Wong, qui sont trois scénaristes qui aussi bossent beaucoup sur des BD un peu plus jeunesse, des fois, qui font sur de la BD de fantasy aussi. Et donc, il va proposer ce projet à ses camarades, en plus des 5 Terres, donc en parallèle de cette BD qui leur prend déjà quand même pas mal de temps. Pour ceux qui lisent la série Les 5 Terres, qui se rendent compte que Les 5 Terres paraissent déjà à un rythme absolument dingue. Je crois qu'il y a 2 albums par an. À peu près, on doit être sur ce rythme-là. Donc il leur propose en plus ce projet d'adapter en bande dessinée la suite des aventures de l'assassin royal. Donc en fait, ils acceptent le projet. Delcourt décide d'accepter ce projet qui, à première vue, est un projet pharaonique, puisque c'est quand même une série qui est assez regardée, surtout, alors peut-être plus aux États-Unis, moins en France. Ils finissent par accepter, et l'écriture de l'album commence en parallèle de la suite des 5 Terres. Ce qui peut paraître un projet quand même assez titanesque, en fait ils se rendent vite compte que c'est assez simple, puisque Robin Hobb accepte de les aider à piloter le début de la série, à superviser un petit peu l'écriture de la bande dessinée. Sans vouloir réduire l'œuvre, ils ont quand même déjà tout prêt. Le scénario a déjà été écrit depuis des années, l'autrice a dit qu'elle les accompagnait, ils sont main dans la main avec elle pour dessiner l'album, donc le projet commence à partir de là. Beaucoup avaient été déçus, peut-être comme moi, par l'adaptation qui a été faite par Soleil en 2008, et du coup... Les gens étaient au rendez-vous, mais pas énormément. C'est pour ça que j'avais décidé de la présenter, parce que c'était un album qui était un peu passé sous le radar.
Petite question, si je peux me permettre, pourquoi ils ont pas recommencé la série, carrément ?
Alors, pourquoi ils n'ont pas recommencé la série ? Simplement parce que Robin Hobb n'a pas voulu. Elle a décidé qu'il y avait déjà une adaptation en bande dessinée qui, pour elle, fonctionnait. Le premier cycle, du coup, parce qu'en fait, il y a 3 cycles dans l'Assassin Royal, c'est un peu compliqué. Et ils avaient aussi notamment adapté Les Aventuriers de la Mer. Et je pense qu'elle avait peur que ce soit mal pris, qu'après avoir adapté 2 séries complètes en BD, il décide de tout refaire à zéro, je pense que ça passait pas trop. Donc il décide d'entamer le deuxième cycle. Le deuxième cycle peut être presque lu indépendamment du premier cycle, puisqu'en fait on reprend l'histoire à un point à peu près zéro, mais pour ça je vais peut-être vous expliquer de quoi parle l'histoire.
Oui, et puis il faut parler lentement, parce que nous on est des lecteurs de BD.
Hein. Ouais, avec les orgues BD, c'est du texte, hein. Il y a beaucoup de texte, c'est dur. Hein. Il y a beaucoup de pages aussi, il n'y a pas d'images.
Il y a beaucoup de lettres.
Il y a beaucoup de lettres, c'est compliqué, il y a des vraies phrases.
Et c'est du noir et blanc en plus, hein. Il n'y a pas de couleur.
Ah, ouais, c'est très difficile, ouais. Donc l'Assassin Royal, on y suit l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Fitz, qui signifie littéralement bâtard dans la langue de ce royaume-là. Ça se passe dans un royaume qui s'appelle le royaume des 5 duchés, si je dis pas de bêtises de mémoire.
5 duchés, 5 terres.
Il y a peut-être un lien, peut-être que c'est ça qui les ont inspirés pour les 5 terres, j'avoue que je ne sais pas. J'ai pas fait la recherche là-dessus, c'est peut-être probable. Et donc on y suit l'histoire de ce personnage qui est un bâtard. Littéralement, puisqu'il est le fils illégitime d'un prince héritier de la couronne. Il est amené à la cour par son grand-père, qui le jette au bas du château fort et qui le confie au roi, parce qu'il veut se débarrasser de ce gamin-là. Le roi le récupère un peu sous son aile et va en faire une arme, en fait, pour le pouvoir de la couronne et s'en servir comme un espèce d'assassin. Donc toutes ces aventures partent de là, et dans le cycle qui est adapté en 2019 en bande dessinée, on part du principe qu'il est mort et il revient un petit peu... au royaume, alors que tous ses compagnons et ses anciens amis, etc., le pensaient mort. Donc c'est un peu un retour à zéro dans l'histoire. Ils ont décidé que c'était une bonne base de départ pour une nouvelle série, du coup, qui est parue en 2019 chez Delcourt. Le premier titre s'appelle Le Prophète Blanc, et je vous invite très fortement à aller lire la bande dessinée si vous avez envie de la lire, ou à lire les romans si vous avez envie de les lire aussi, qui sont quand même assez longs, donc il faut être quand même assez patient. La psychologie des personnages est très profonde et on parle beaucoup, pas que de fantaisie, on parle aussi de relations humaines et c'est très beau. Si jamais, alors Robin Hobb a écrit d'autres œuvres, du coup, alors il y en a une partie qui a été adaptée en BD, ce qu'on disait avec Nicolas juste avant, Les Aventuriers de la Mer, il y avait aussi Le Guerrier Chaman, etc. C'est une autrice qui est assez prolifique. Elle n'abandonne pas l'idée d'une adaptation aussi en série, visiblement, dans la même interview qu'elle avait donnée au festival des Imaginales, elle avait dit qu'il y aurait peut-être une adaptation en série télé après le succès qu'a eu Game of Thrones. Elle connaît très bien George Martin, c'est les deux auteurs qui sont souvent en contact, et elle aimerait bien faire comme George Martin et adapter peut-être sa série de livres en série, mais elle espère trouver un producteur qui ne massacrerait pas toute son œuvre. Voilà. J'ai pas parlé des dessins, on est moins sur l'esprit des 5 terres, pour ceux qui ont lu les 5 terres, on n'est pas sur l'esprit animalier, anthropomorphe, que certains n'aiment pas trop, je sais que ça peut bloquer certaines personnes, généralement quand c'est des animaux à la place des humains. Là on est vraiment sur un style où bah voilà, les personnages sont représentés assez fidèlement à la description du roman, même s'il y a quand même un, je spoil pas pour ceux qui veulent lire le bouquin, mais il y a quand même tout un lien avec le côté animalier qu'on retrouve aussi étonnamment dans les 5 terres. Voilà, je vous laisserai peut-être sur... une citation de George Martin qui parle de sa collègue Robin Hobb en disant que pour lui, Robin Hobb est un diamant dans un désert de zircon dans l'univers de la fantasy. Voilà.
Tu sais pourquoi la série elle s'est télescopée avec les 5 terres en fait ? Pour ça qu'ils n'ont pas continué tellement ou c'est...
Alors en fait, il y a eu un seul album pour l'instant qui a été fait. Je sais que du coup, ils bossent beaucoup sur les 5 terres et je pense que le projet a été un peu mis à l'arrêt. Au final, les projets se sont présentés en même temps. Ils ont réussi assez étonnamment à faire les deux, ce qui est assez dingue. Je pense que ça a plus accroché les gens et les gens se sont plus tournés sur les 5 terres.
Pour ils ont un tel rythme, ils pourraient presque se mettre au manga.
C'est un truc de dingue. Il y a au moins 2 albums par an, ce qui est assez fou. Du coup.
Ils avaient annoncé que normalement il y aurait 30 albums parce qu'il y aurait 5 cycles.
Oui, il y a 5 cycles de 6 albums à chaque fois. Et là, ils avaient prévu de faire 6 volumes puisque le deuxième cycle de l'Assassin Royal en roman est en 6 volumes et ils voulaient suivre en fait les 6 volumes en bande dessinée. Je sais pas où ça en est, il faudrait qu'on demande à l'occasion chez Delcourt où ça en est. Peut-être que le projet a été mis à l'arrêt. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a qu'un seul volume. Peut-être qu'ils feront jamais la suite. Je ne sais pas si ça arrivera pour le coup, j'espère.
Pour ceux qui ont maintenant perdu.
En tout cas, oui, j'ai pas précisé que je disais que la plupart des adaptations en bande dessinée de fantasy étaient mauvaises. Oui, effectivement, il y a la Horde du Contrevent qui était vraiment bien. Et celle-là, pour le coup, cette BD-là, donc le Prophète Blanc, est pas trop mal. Ils ont vraiment bien réussi leur truc. Et on sent qu'ils ont toute cette inspiration. Ils sont vraiment attachés au côté très complot politique, qui est très présent dans le roman, qui est très présent dans la BD, et qui est aussi dans les 5 terres, qu'on retrouve très facilement.
Un univers qui est à chaque fois interconnecté
toutes ces séries sont connectées. En fait, ce qui est très bien fait, c'est que notamment le dernier cycle, qui du coup je pense ne verra jamais le jour en bande dessinée, relie en fait toutes les séries. Le dernier cycle de l'Assassin Royal fait se connecter toutes les séries qu'elle a fait autour, que ce soit le cycle des anciens ou les aventures de la mer, et tous les personnages se retrouvent dans les 3 derniers tomes. Elle arrive à se faire terminer toutes les histoires en même temps, ce qui est assez improbable du coup, parce qu'elle arrive vraiment à mettre fin à 3 énormes séries en même temps en l'espace de 3 volumes quoi. Elle est très très forte.
Et bah du coup, merci beaucoup Camille. Et on va rester un petit peu dans le fantastique, puisque là, ça va être Vincent qui va nous présenter le prochain album. C'est pas du tout une adaptation de roman, mais on est encore dans un album de fantasy.
Merci Nicolas. Alors pour le coup, moi, je vais vous parler d'un album de fantasy jeunesse, qui n'est pas encore paru. On est sur un projet qui devrait sortir dans quelques semaines, dans quelques mois, j'ai pas la date exacte, qui a été créé par Mini Ludwin aux éditions Dracou. Alors, avant de vous parler de cette jolie BD qui va arriver, je vais vous parler des éditions Dracou et de leur créateur, enfin l'un des deux créateurs qui s'appelle Arleston, on va le prononcer comme on veut. C'est le scénariste aux 150 histoires et aux 15 millions d'albums vendus. Le mec qui a bossé beaucoup chez Soleil pendant des années et des années, qui a réussi à créer par exemple Le Monde de Troie avec le très connu L'Enfeust de Troie. Puis ensuite il y a eu Les Trolls de Troie qui sont toujours en cours d'ailleurs, hein, qui sortent encore, on doit être au 25 ou 26e tome je crois maintenant. Il a scénarisé aussi ce qui est pour moi, à mon avis, l'une des meilleures séries de fantasy qui s'appelle Les Naufragés d'Ithac, qui sont peu connus finalement par le grand public, alors que c'est à mon avis largement au-dessus de L'Enfeust. Dans la conception de l'histoire, dans la narration, dans le dessin, dans plein de choses. Il a fait aussi Les Forêts d'Opale, etc., etc., etc. Arleston est partout. Et du coup, il a décidé, compte tenu de toute son expérience, de monter sa petite maison d'édition. Donc il est allé frapper à la porte de Bambou. Ils ont monté l'édition qui s'appelle Dracou. Il se veut spécialiste de la fantasy en France. Ils en sont aujourd'hui à une 30aine d'albums. C'est assez récent, hein. Ça a été créé à la fin des années 2010. Ils en sont aujourd'hui à une 30aine d'albums sortis avec de très belles choses, notamment avec une certaine Rebecca Morse qui a sorti Dragons et Poisons. Il y a aussi D'Entracon qui a été plutôt une bonne réussite. Arleston, journaliste, auteur dramatique, il bosse même pour France Inter, il est rédacteur en chef, scénariste, éditeur, il est partout. C'est un touche-à-tout, mais surtout c'est un raconteur d'histoire. Parce qu'il est capable de partir autant dans le polar humoristique avec Léo Loden que dans la parodie. Mais c'est dans la fantaisie qui se complète le mieux. Et l'originalité de Dracou et la façon dont il a voulu créer la maison d'édition, c'est de trouver des auteurs qui sont plus ou moins issus d'autres milieux. La grande majorité vient du monde du livre.
et débute finalement dans la bande dessinée fantasy. Il n'est pas allé chercher des grands grands auteurs dans sa maison d'édition, il est allé chercher des petits nouveaux qui ont envie de se lancer ou des gens qui ont moins d'ancienneté. Et il a un poids très très fort, peut-être trop, je sais pas, mais un poids très très important en fait dans la création des BD de chacun, parce qu'il a cette présence de l'éditeur qui accompagne, qui soutient, qui relit, qui réécrit. Voilà, il avance énormément avec eux. Il participe en soutenant activement ses auteurs, et donc il allait chercher une certaine Mini Ludwin. Mini Ludwin, elle est quand même connue du grand public parce qu'elle a accompagné un scénario qu'a dessiné Arleston qui s'appelle Le Grimoire d'Elphie. Juste pour faire un petit pitch en deux secondes, il y a 3 tomes de sortie aux éditions Dracou, toujours. C'est l'histoire d'Elphie qui est une jeune demoiselle qui vit avec ses 2 grandes sœurs dans une librairie mobile, dans un bus anglais, et qui parcourt la France pour résoudre des enquêtes. Mais elle a un petit avantage, Elphie, par rapport aux autres, c'est qu'elle a un grimoire magique dans lequel, quand elle dessine ou quand elle fait de l'origami, en fait, ce qu'elle dessine, ce qu'elle crée, prend vie. Dans le premier album, ils arrivent en Bretagne ou en Normandie, je ne sais plus, et voilà, ils arrivent c'est la guerre des boutons, tout le monde s'embrouille. Et grâce à un dessin qu'elle va faire d'une grenouille, elles vont réussir à apaiser tout le monde. Dans le deuxième tome, ils partent, je crois, en Provence, au pays des cigales. Et dans le troisième tome, qui est sorti très récemment, on est à la période de Noël en Alsace. Avant ça, en fait, il allait la chercher. Elle vient de l'animation. Elle a fait, je crois, un cursus de cinéma d'animation à l'EMCA d'Angoulême. Ensuite, Mini Ludwin, elle est partie dans le dessin animé, dans les studios parisiens, où elle a fait vraiment ses armes dans la création graphique du dessin animé, dans les séries TV, qui sont, pour le coup, moi, je ne les connaissais pas, style Mandarin & Co, Copycut, Ella Oscareo. Pour ceux qui connaissent, moi, je vous avoue, j'ai découvert ça. Donc, une jeune autrice qui est forte déjà d'une très bonne expérience de plus de 10 ans dans le cinéma d'animation, mais ses premiers amours, c'était l'illustration jeunesse et la bande dessinée. Elle est partie ensuite, du coup, dans l'illustration de romans jeunesse, notamment Le Trésor de l'île sans nom, qui a été scénarisé par Gilles Labier, ou Je suis en CM, qui est très très bien, qui a été scénarisé par Magdalena. Voilà, elle bosse dans la presse jeunesse, elle bosse dans plein de choses, dans les univers pleins de fantaisie et d'humour, mais elle avait cette intention, et du coup, on y vient, de se mettre elle-même au scénario et de créer sa propre bande dessinée. Et donc elle est allée taper à la porte d'Arleston en lui disant « S'il te plaît, est-ce que moi aussi je peux scénariser et partir toute seule dans une folle aventure de bande dessinée ?» Chose, vous l'avez compris, qu'il a acceptée. Je vais pouvoir vous parler du coup de cette magnifique BD qui va arriver, un roman graphique, parce qu'on va l'appeler comme ça, roman graphique jeunesse, de 200 pages, elle se colle à l'écriture du scénario, et vous allez voir que c'est une belle réussite. En deux mots pour vous présenter, ça s'appelle, donc le titre c'est Les Chroniques de Naxatra. Naxatra étant une planète forestière, 7e lune de Surya, où les peuples vivent en harmonie. Il y a 4 peuples. Dans les immenses et verdoyantes plaines du continent principal, le Kanda vit un peuple, donc là on est sur proche de la Terre, imprégné de culture agraire, d'élevage, qui s'appelle les Bumis. Dans les océans, au sein d'archipels multiples nommés les Jotedje, évolue un peuple proche de l'eau et dépendant de la pêche, les Niru. Au nord, désertique et aride, terre brûlante et inhospitalière, vivent les Banki. Et au sud, sur les plateaux, les hautes chaînes montagneuses du Paravata, vivent les Gali, un peuple pacifique. Voilà, les 4 principaux peuples de Naxatra vivent avec équilibre et stabilité. Chacun peut évoluer et voyager comme il le souhaite sur la planète. Les lois sont quasiment inexistantes, tant la vie y est simple et réglée. Chacun sait où est sa place. Mais voilà, si c'est aisé dans les faits, c'est parce qu'à chaque génération, environ tous les 30 ans, une élue de chaque peuple, appartenant aux familles dirigeantes, est nommée pour réaliser le Prayana, un périple qui consiste à traverser les 4 continents en portant la bonne parole de paix et d'amour et en multipliant les actions pacifistes. Voilà, donc là, on a 4 élus qui doivent partir pour faire ce périple de pacification de la planète et pour que les 4 peuples vivent ensemble. Sauf que le périple devra commencer au premier jour de la nouvelle lune, mais tapis dans l'ombre des volcans Kali, la sœur de Phoenix jalouse ce départ. C'est elle qui aurait dû être choisie par le Conseil des Sages. Elle n'accepte pas cette décision et sa colère augmente à mesure que le départ de sa sœur et des autres élus approche. Voilà, on est sur une histoire, une aventure avec un bestiaire qui est foisonnant, qui fait un peu penser à celui de Léo dans sa création du monde, en fait, avec une flore resplendissante. On a un ensemble de 4 peuples, en fait, avec des caractéristiques complètement différentes, mais qui vont complètement se compléter. Avec donc 4 jeunes filles qui partent à l'aventure, et une 5e qui est là, qui jalouse tout et qui va mettre un petit peu son bousin dans l'histoire. Elles ont toutes des caractères très affirmés. Voilà, laissez-vous transporter dans une aventure qui sera à couper le souffle. On a eu le SP qui est arrivé à la librairie là dernièrement. J'ai lu une 30aine de pages, ça m'a passionné. Je pense que Mini Ludwin, pour une fois qu'elle se met au scénario, a complètement raison de se lancer. Elle est encore toute jeune, mais c'est déjà de toute beauté.
Ouais, ça fait vachement envie.
Ouais, carrément, je prendrai le SP pour le lire. Vraiment, ça m'a donné envie de rappeler.
En deux secondes, j'ai oublié, parce qu'elle a quand même commencé à bosser aussi le graphisme chez les adultes. Elle a bossé avec du coup de reste sur Yezidi.
Ah oui. Voilà, le coup de cœur dernièrement de Andy. Le
cœur de l'année, ouais, qui était vraiment bien. Qui change un peu, qui est ado-adulte. Et pour le coup, son trait fait toujours bouche.
Et du coup, on va passer au dernier libraire ce soir, qui va encore parler d'un univers un peu fantastique aussi quand même. Même si c'est très différent. Mais cette fois-ci, on va au Japon, parce que Andy va nous présenter un auteur japonais.
Ouais, vas-y Andy.
Moi, je vais vous parler d'un projet en fait de Satoru Noda. Vous le connaissez peut-être pour son travail sur Golden Kamuy, un manga qui est extrêmement connu maintenant parce que c'est un récit historique qui se passe au Japon au début de l'ère moderne, qui parle notamment du peuple des Ainu. Ce qui est très intéressant dans Golden Kamuy et ce qui va être très intéressant dans l'œuvre que je vais vous parler après, c'est qu'on nous parle à la fois d'un récit d'action, mais aussi et surtout de la culture, en fait, finalement. De l'héritage et de l'amplification que va avoir la culture à travers les âges et à travers les continents. Satoru Noda a sorti donc un album qui s'appelle Crying Samurai, qui serait sorti donc entre 2010 et 2013 en France, qui comporte 12 tomes, qui est une petite série pas trop longue, pas trop courte, qui nous laisse découvrir les aventures de Arasaka Mitsune, qui est un jeune samouraï, pleine époque Edo, qui se retrouve malgré lui en fait sur le projet, sur le rêve de devenir le plus grand des samouraïs. Tout ça pour dire que façon vagabond de Takehiko Inoue, un peu comme Miyamoto Musashi, notre ami va essayer de devenir un sabreur. Sauf que évidemment, sabrer des ennemis, découper des gars, c'est pas franchement ça l'âme du samouraï. Et donc ce qui est vachement intéressant dans son manga Crying Samurai, c'est que ce garçon va très vite découvrir que tuer, c'est pas la solution. Sauf qu'il va le découvrir en pleine guerre, après un énorme massacre. Ce fameux samouraï, après une tuerie, découvre que tuer c'est pas top, et il se met en quête, en fait, finalement, après avoir tué tant de monde, il décide de se faire seppuku, donc de mettre fin à ses jours. Problème, c'est que ça marche pas. Il s'en sort. Il s'en sort le bout. Problème, c'est que ce gars-là, à force de tuer, a priori, il a absorbé une partie de la vie de chacun des hommes qu'il a assassinés. Petit problème, c'est que il a aussi peur de la mort. Il a réussi à une fois à se faire seppuku. Par contre, il a un peu la pétoche de réessayer. Et donc, ce qui est assez intéressant dans Crying Samurai, c'est que on va évoluer avec le personnage au fil des ans. Le manga a beau être en 12 tomes, on va voyager en fait d'époque en époque. Parce que certes, il a envie de mourir, mais il a un peu la trouille, mais il va quand même essayer. Donc, il va participer à une grosse partie des conflits mondiaux qui auraient pu le mener à la mort. Notamment la guerre d'Indochine, la Seconde Guerre mondiale, on finit époque assez contemporaine. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce manga est sorti aussi à peu près à la même période que deux œuvres, Vagabond, dont je parlais avant, de Takehiko Inoue, qui suit l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est l'adaptation de son roman La pierre et le sabre et La voix de la lumière, qui parle en fait justement de tout l'aspect philosophique du samouraï, qui parle de l'introspection. Vraiment, on a eu des passages très longs où il voulait simplement planter du riz. Et oui, être un samouraï, c'est pas que couper des têtes. Mais aussi, il est sorti à la même période que L'habitant de l'infini. Ce qui est assez intéressant dans ce bouquin-là aussi, c'est que comme dans Crying Samurai, on a l'évolution du personnage au fil des ans, parce que ce personnage est immortel, est en conflit avec son époque et essaie de trouver sa place. Et c'est vraiment intéressant de voir un peu l'évolution du personnage, de se retrouver confronté à différentes cultures, différentes époques. Du coup, c'est tout un parcours assez erratique et qui nous laisse un questionnement finalement sur c'est quoi la vie.
Super. Merci beaucoup Andy.
Merci.
Merci. Mais c'est vrai que les histoires se ressemblent un peu entre L'Habitant de l'Infini et Crying Samurai. Et je pense que, mine de rien, vu que l'œuvre de Samurai est un peu plus ancienne, parce que ça a commencé à être prépublié, L'Habitant de l'Infini, en 93, c'est quand même très probable que ça l'ait influencé aussi pour son travail. Parce que notamment, il y a quelques années, quand ils avaient relancé l'édition de L'Habitant de l'Infini, Casterman, ils avaient fait un premier double album, et à la fin, il y avait une interview croisée en fait, entre lui et Kishimoto, l'auteur de Naruto, où l'auteur de Naruto faisait véritablement une déclaration d'amour à Samura en lui disant que c'était un des artistes qui l'avait plus influencé. Notamment, il lui disait qu'il était fasciné comment est-ce qu'il dessinait les mains. C'est un auteur qui a, à mon avis, influencé beaucoup de générations d'auteurs. Et du coup, c'est probable que ça a aussi inspiré Noda dans son œuvre. Parce que dans des œuvres plus récentes aussi, on voit qu'Anda, il adore faire des scènes de combat assez dantesques. Alors même si dans Golden Kamuy, il utilise pas mal les armes à feu aussi, mais il y a des combats au couteau qui sont très très chorégraphiés, comme Samura dans L'Habitant de l'Infini, où les combats, c'est assez dantesque ce qu'il met en scène.
Des combats au couteau Noken ?
Noni ! Si vous êtes encore ici, vous n'êtes pas parti, merci pour avoir écouté jusque-là. C'est tout pour ce soir. Non, ce n'est pas tout pour ce soir.
Comment ?
Quoi ? Alors c'est presque fini, rassurez-vous, mais aujourd'hui, on est le 1er avril. Et qui dit 1er avril,
trahison,
disgrâce. et oui, donc en fait ce soir, on a choisi des albums un peu particuliers, parce que chaque album qui vous a été présenté par les libraires d'aujourd'hui n'existe pas. On a inventé, chacun de nous, un album qui nous faisait un peu fantasmer, dont on avait envie de parler, d'imaginer qu'est-ce que ça aurait pu donner. Mais là où on voulait dépasser en fait juste l'aspect de la blague, c'est qu'on voulait vous parler vraiment du parcours des auteurs derrière ces pseudo-albums, des auteurs et des autrices qui existent vraiment, qui font vraiment des albums qui ont une importance et qui nous plaisent. Et voilà, et du coup, c'était pas juste faire une blague, mais par cette blague et ce travail d'invention, en fait, par ricochet, parler de véritables BD, que vous pouvez, celles-ci, retrouver véritablement en magasin. Et donc là, on va refaire un tour de table très très rapide, juste pour revenir brièvement sur ce qu'on a dit, peut-être d'où nous est venue l'idée, et peut-être aussi débunker certains trucs là où on vous a menti, pour que vous n'alliez pas chercher pendant des heures le manga Crying Samurai en disant « Mais où est-ce qu'il est ce manga ? Je voulais le lire absolument » parce que, malheureusement, vous l'aurez compris, ces albums n'existent pas.
Voilà, mais c'était sûr en fait !
Moi, je veux bien parler un petit peu de cette idée. Moi, j'avais vraiment envie de parler de ce qu'aurait pu être une bande dessinée réaliste autour d'Astérix. Et puis finalement, ça collait assez bien avec cette volonté qui était vraiment réelle à l'époque de la part de Dargo, de Pilote, de s'adresser à un public un peu plus ado, un peu plus adulte. Voilà. Et je suis désolé, mais du coup, on ne saura jamais si Falbala trompe ou non
Tragicomics. J'avais envie de le savoir.
C'est sûr qu'elle trompe.
Mais non, ça se trouve, c'est Tragicomics.
Moi, je pense que Tragicomics, en fait, essaye de se débarrasser d'elle.
Ouais.
Toujours est-il que tout ce qui a été dit après, tout ce que j'ai pu dire sur cette fameuse fronde...
Que j'ai découvert vraiment sur le tard.
Je l'ai appris ce soir, je ne le savais pas.
Pilote a vraiment été radié de la commission paritaire des publications et des agences de presse en 1978.
C'était beaucoup trop précis pour que ce soit faux.
Tout le long, on a inventé des petites choses, mais il y a des vraies infos dans ce qu'on a raconté.
Ouais.
Moi, sur l'album avec la rencontre entre Canardo et le John Blacksad et le John Chatterton, donc évidemment, ça n'existe pas. Et en fait, tout départ, moi, c'est venu de quelque chose d'assez banal. En fait, c'est juste j'ai découvert sur le tard les aventures de John Chatterton, en fait, d'Yvan Pommeau, qui est un auteur que j'aime beaucoup, mais pour d'autres albums, pour notamment Les Angelots du Lac, choses comme ça. Et je suis vraiment tombé des nues en voyant la tête de ce détective en grand impair. Je fais, mais c'est dingue, c'est vraiment John Blacksad, c'est pas possible et tout. Je m'étais dit, il faut vraiment que j'invente une histoire en mettant les deux en scène. Et en fait, en faisant des recherches, m'est revenu en tête Canardo, j'ai vu d'où il venait. Voilà. Et du coup, j'ai inventé une histoire où on faisait réunir ces trois auteurs, qui se connaissent peut-être, mais en tout cas, ils n'ont jamais collaboré ensemble. Et voilà.
C'est marrant que les deux chats noirs détectives les plus célèbres de la bande dessinée s'appellent John Tolito.
C'est marrant.
C'est très marrant.
Je ne sais pas à quel point, à un moment donné, peut-être que ça sortira si Guarnido et Canales ont pas fait référence à... Parce que quand même...
Donc on sait que George Lucas a tout pompé sur Valérian, mais on ne sait pas si c'est le cas.
On le comprendra un jour. Bah moi déjà j'espère que je vous ai pas trop barbé avec mes histoires de romans, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent de la bande dessinée, mais j'ai parlé plus de romans que de BD au final. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ça, c'est parce que simplement j'ai fini il y a pendant mes vacances le dernier tome de l'Assassin Royal, et c'est une série qui m'a vraiment marqué. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller y jeter un œil, c'est vraiment une série qui est terrible et qui est touchante et vraiment émouvante. Il y a bel et bien eu une série du coup chez Soleil qui adaptait du coup l'Assassin Royal en bande dessinée. Je m'excuse d'ailleurs pour ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'était mauvais, c'était plus pour vendre ma BD qui n'existait pas, évidemment. La série est plutôt bonne, c'est pas forcément la meilleure série de bande dessinée peut-être dans Fantasy. La série est correcte, elle est très bien si vous avez l'occasion d'y jeter un oeil, je sais pas s'il est encore disponible par contre. Tout ce que j'ai dit sur Robin Hobb, enfin Megan Lynn Hall de son vrai nom, est vrai. Elle a vraiment participé au Festival des Imaginales. Elle n'a pas rencontré par contre là-bas l'auteur des cinq, enfin, le dessinateur des cinq terres, malheureusement.
Elle est vraiment pote de George Martin.
Elle connaît plutôt bien George Martin. Ils sont en relation assez étroite tous les deux. Mais oui, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux cinq terres, qui est vraiment, je pense qu'on a tous presque bien. Vincent est très fan aussi.
Je suis pas à jour, ouais. Mais j'avoue que.
Qui est vraiment une très bonne série qui rejoint un peu la présentation du coup de Nico, puisque c'est aussi des animaux dans toute la BD en fait. Et c'est une très bonne série de bande dessinée qui, en fait, quand j'ai lu la BD Les 5 Terres, ça m'a tout de suite fait penser, forcément. Je pense que ça nous a fait penser à Game of Thrones, l'Assassin Royal, etc.
Nickel. Vincent, tu veux rajouter un mot ?
Non, juste que moi, je suis vraiment admiratif du travail d'Arleston dans les univers qu'il a pu créer, hein, le monde de Troie ou le monde d'Ita, qui à mon avis, m'ont beaucoup marqué comme lecteur de bande dessinée. Et du coup, quand tu as proposé ce podcast, en fait, je me suis dit, tiens, je vais partir un peu dans cet univers. Et ce jour-là, ma fille, en fait, s'est dessinée avec ses trois copines comme étant les quatre sœurs de fantasy, en fait, avec chacune la terre, l'eau, le feu, etc. Je me suis dit, bah tiens, ces quatre sœurs-là, je peux en faire quelque chose. Et j'en ai mis une cinquième méchante. L'autrice Minnie Ludwin, vu son talent dans le dessin, puis la façon dont elle adapte les scénarios des autres, elle a à mon avis cette capacité à partir toute seule un jour. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir, parce que l'ensemble des noms que j'ai donnés, j'en ai donné qu'à peu près un dixième de ce que j'ai cherché. Ce sont tous des mots qui sont issus de la langue sanskrit, qui sont des traductions de terre, eau, feu, etc. En sanskrit.
Okay. Du coup, Andy ?
Et moi, bah, ils existent tous, hein, sauf le manga Crying Samurai, malheureusement. Mais après, voilà, l'habitant de l'infini, ça existe vraiment, Vagabond aussi. Puis ouais, j'ai choisi de faire Crying Samurai pour mon amour du récit historique en manga, qui est un genre qui est assez génial et qui est un peu méconnu, je trouve, en France. Alors maintenant, de plus en plus, avec des séries comme Vinland. Mais ouais, il y a d'autres séries, par contre, qui sont un peu méconnues, comme L'homme qui tue Nobunaga ou Innocent. Innocent, qui est une très très bonne série sur la Révolution française.
Il y en a plein,
En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On espère que ce podcast vous aura plu. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais pas quand, honnêtement. D'ici là, portez-vous bien, lisez des BD et puis à plus.
Ciao. À bientôt. Ciao.
À bientôt.
Merci.
Trahison. Disgrâce. L'esprit du mal est marqué sur sa face.
Trahison.
Quel outrage.
Disgrâce.
Et violence.
Il n'est que nuisance depuis sa naissance.
Trahison. Disgrâce.
Et car
il n'est que
l'esprit du mal est marqué sur sa face.
Trahison. Disgrâce.
Depuis sa naissance.